Europe 1. Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans le dernier numéro d'Historiquement vôtre de la saison. Déjà qu'en temps normal, on a l'habitude de se lâcher, mais alors aujourd'hui Mathieu, j'imagine que vous êtes nos limites.
Bonjour à tous, oui comme vous dites Stéphane, avec ce parler jeune qui est le propre de tous ceux qui ne le sont plus. Aujourd'hui je suis nos limites et je sais que vous aussi, puisqu'avant de prendre l'antenne, vous me disiez aujourd'hui...
On peut dire toutes les conneries de la Terre, tout le monde s'en fout.
Alors personnellement, ça m'arrange que vous me donniez quitus, car j'ai vous concernant deux trois sons assez gratinés que j'hésitais à balancer, mais si vous me dites qu'on peut tout dire, alors allons-y.
Alors faites gaffe quand même. Je voudrais pas devoir retirer ce à quoi j'ai pensé ce matin en me levant.
C'est quoi ?
Vous allez me manquer cet été, Mathieu.
Oh, c'est gentil ça, Stéphane. Vous pourrez toujours m'écouter dans les rediffusions de l'émission durant tout l'été, ou bien m'inviter à Paros, c'est comme vous voulez.
Bon, écoutez, on se verra à la rentrée, hein, Mathieu, c'est déjà bien comme ça.
Ah, merde, j'aurais tenté.
Parce que oui, on sera là, comme disait le poète Thierry Pastor, tant de folie, c'est pas fini.
C'est pas fini, folie, fini.
C'est pas fini, c'est aussi notre thème cet après-midi avec ces artistes qui ont laissé une œuvre inachevée, Stéphane.
Oui, et c'est ce qui est malheureusement arrivé à l'architecte catalan de génie, Antoni Gaudí, qui s'est lancé dans une entreprise folle, la Sagrada Familia, cette église devenue le symbole de Barcelone, qu'il a occupé plus de 40 ans de sa vie, une vie qui a été brutalement interrompue. Les travaux, eux, ont continué. Mais 140 ans après la première pierre, vous savez quoi ? Elle n'est toujours pas achevée. Puis, lui a volontairement laissé une œuvre inachevée, le street artist Keysa Ring et son Unfinished Painting, un triste tableau qu'il n'a peint que sur un morceau, se sachant condamné par le sida à 31 ans seulement. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un artiste plus contemporain dont l'œuvre est également inachevée.
Oui, Stéphane, vous faites peut-être partie de ceux qui avaient des billets pour sa tournée de 2015 qui avait été brusquement interrompue. Mmh. Eh bien, je suis au regret de vous dire qu'elle n'a jamais repris cette
Alors
tournée.
Hein.
Aujourd'hui, je vous raconte les hauts et les bas de Stromae, mais d'abord, saluons une toute dernière fois nos merveilleux chroniqueurs qui s'entendent comme larrons en foire. Aujourd'hui, ils se sont même fait des cadeaux.
C'est un genre de plug anal, en somme.
Oui, non, non, on attendait la fin de l'émission pour les ouvrir. Elle n'a aucune patience, oui, Stéphane.
Mais vous savez quoi ? Elle a l'habitude. Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour, messieurs. J'ai surtout pris l'habitude d'être tournée en ridicule. Mais je reste absolument immarcissible, inébranlable. Et oui, alors, j'ai remarqué que le 10 juillet prochain, on commémorerait le 150e anniversaire de la naissance de Marcel Proust, qui est né le 10 juillet 1871 à Paris. Et l'année prochaine, ce sera le centenaire de sa disparition, puisqu'il est mort le 18 novembre 1922. Ben, raison de plus pour en faire notre Madeleine du jour, si vous voulez bien.
Avec nous également David Castello-Lopez. On remonte aux origines d'une invention,
oui,
d'un objet.
C'est les vacances, enfin pas pour tout le monde, mais pour nous. Mais donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui soit de circonstance. Donc je vais faire les origines du cahier de vacances.
Ah oui,
cette invention de l'enfer.
Pour réviser. Ouais. Et puis avec Olivier Poul, c'est un peu une sorte de mélange.
Le dernier plat de la saison, sans doute celui qui symbolise le mieux l'été, on va parler de ratatouille et de son histoire surprenante. Oui. Vous allez, je pense, être bluffé.
Vous avancez beaucoup. Vous pensez que nous ne connaissons pas l'histoire de la ratatouille ?
Non, je suis même sûr.
Vous êtes sûr que je ne connais pas, moi, personnellement, l'histoire de la ratatouille ? Vous êtes sûr de vous, Olivier ? Nous allons voir ça tout à l'heure. Enfin, les amis, et si une année d'humiliation, une année de défaite, pouvait être balayée en une seule édition du quiz ? Car il suffirait que le présentateur de cette émission pète un plomb et décide de remettre les compteurs à zéro. Le gagnant de Bern to be Alive serait alors sacré champion d'Historiquement vôtre. Ça serait dégueulasse, mais ça serait raccord avec ma politique de réinvention des règles au fur et à mesure. Rendez-vous aux alentours de 5h10 pour la grande finale de Bern to be Alive. Mais tout de suite, découvrons notre premier personnage de l'histoire qui a laissé une œuvre inachevée. Un palais qu'il avait commencé à construire pour un célèbre animateur franco-luxembourgeois sur les hauteurs de Barcelone. Stéphane Bern nous raconte Antoni Gaudí.
Europe 1, 16h, 18h,
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle est ce que la Tour Eiffel est à Paris, ce que Big Ben est à Londres, ce que la Statue de la Liberté est à New York. La Sagrada Familia est l'emblème de la capitale de la Catalogne, Barcelone. Mais elle a une particularité qui contribue fortement à sa renommée. Elle est inachevée. Non, les échafaudages qui l'entourent, encore aujourd'hui, ne datent pas de la fin du 19e siècle, de 1882 précisément, date où fut posée la première pierre, et ne figurent pas dans les plans d'origine. Aujourd'hui, sur les 18 tours prévues pour cette basilique catholique, chef-d'œuvre du modernisme catalan, on peut en admirer 8. Celui qui les a imaginés, l'architecte de génie Gaudi, n'a pu en voir qu'une seule avant de mourir subitement à 74 ans, laissant en chantier l'œuvre à laquelle il a consacré toute sa vie. Antoni Gaudi est né en juin 1852 à Reus, dans la province de Tarragone, en Catalogne. Issu d'une famille de chaudronniers, le petit Antoni Gaudi grandit dans l'atelier familial auprès de son père et de son grand-père, avec qui il apprend à maîtriser l'espace et les volumes. Très vite, il se passionne pour les matériaux et s'emploie à les transformer. De santé fragile, il est notamment sujet au rhumatisme. Antoni Gaudi doit séjourner durant des semaines au grand air, près de la maison familiale. Là-bas, il passe des heures et des heures à contempler la pureté des rochers et la lumière de la Méditerranée, mais aussi les plantes et les animaux qui l'entourent. La nature lui révèle tous ses secrets. Elle est l'œuvre suprême du Créateur et s'impose aussitôt comme une source d'inspiration à la fois inévitable et inépuisable pour celui qui reconnaît que rien n'est inventé parce que la nature a déjà tout écrit. Ses parents n'ayant pas beaucoup d'argent, Gaudi travaille comme stagiaire chez des ingénieurs et des architectes pour financer ses études, qu'il débute en 1870 à l'École technique supérieure d'architecture de Barcelone. Ses enseignants remarquent tout de suite qu'il a un truc en plus. Lorsqu'il finit ses études, 8 ans plus tard, le directeur de l'école se pose la question. « Je ne sais pas encore si nous avons donné ce diplôme à un fou ou à un génie. L'avenir nous le dira. » Il est peut-être les deux à la fois. Gaudi se met à son compte et installe son cabinet d'architecture dans le quartier juif d'El Cal à Barcelone. Entre 1883 et 1888, il réalise sa première grande œuvre architecturale, la Casa Vicence, sur commande d'un particulier qui lui a donné son nom. L'influence de l'art islamique frappe au premier coup d'œil sur cette façade atypique où des carreaux de céramique blanche et verte s'articulent en échiquier. Feuilles de palmier et fleurs d'œillets ornent les carreaux et les grilles de l'édifice. Gaudi s'impose comme le maître du modernisme catalan et réalise ensuite une autre œuvre phare du style Art Nouveau, la Casa Batlló. Si vous êtes déjà allé à Barcelone, l'originalité de cette façade en pierre, fer forgé, mosaïque aux multiples couleurs, n'a pas pu vous laisser de marbre. De même pour la Casa Mila, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un rocher creusé dans les vagues. En vrai dandy, Gaudi mène une vie sociale bien remplie. Il suit des cours d'histoire et de philosophie, assiste à des concerts et à des représentations théâtrales. Toute sa vie, il restera célibataire, fidèle à son unique amour, l'architecture. Les amis, c'est une chose, mais l'artiste a besoin de mécènes. Il trouve les deux en la personne d'Eusebio Güell, qu'il rencontre à l'Exposition universelle de Paris en 1878. Il s'agit là d'une des rencontres les plus productives de l'histoire de l'art qui débouche sur la création d'un jardin unique en son genre où Gaudi laisse libre cours à son imagination débordante, le parc Güell. La visite ressemble à une plongée dans un conte de fées. Une fois de plus, la nature est omniprésente. Les colonnes des allées font figure de troncs d'arbres et les fontaines en mosaïque représentent des salamandres. C'est dans l'une des deux maisons du parc que Gaudi décide de s'installer en 1906. En parallèle de toutes ses réalisations, Gaudi plonge sur son œuvre monumentale, la Sagrada Familia, commencée voilà des années en 1882. La première pierre de ce temple expiatoire, c'est-à-dire construit grâce à des donations fondées par l'Association spirituelle des pieux de Saint-Joseph, a été posée l'année précédente. Son but est, je cite, « de réveiller la tiédeur des cœurs endormis, exalter la foi, ranimer la charité » et demander au Seigneur d'avoir pitié du pays. Rien que ça. À 31 ans, Gaudi prend la direction des travaux et veille à ce que le temple présente la vie de Jésus et l'histoire de la foi chrétienne. 3 façades doivent représenter la nativité, la passion et la gloire. 18 tours sont prévues pour surplomber l'édifice, 12 pour représenter les apôtres, 4 les évangélistes et 1 la Vierge Marie. Et la plus haute de toutes, vous vous en doutez, est dédiée au Jésus-Christ. Cette dernière doit être couronnée par une croix qui culmine à 172 mètres de hauteur, ce qui fera de la Sagrada Familia l'église la plus haute du monde. En toute modestie, bien sûr, car Gaudi ne veut pas qu'elle surpasse l'œuvre de Dieu. La sienne sera donc humblement inférieure d'un mètre à la colline Montjuïc. En 1915, le nonce apostolique pour l'Espagne, Monseigneur Ragonesi, visite le chantier et ne peut retenir son admiration. « Vous êtes le Dante de l'architecture et votre œuvre est le plus grand poème chrétien en pierre. » Gaudi consacre 43 années de sa vie à ce chantier, dont les 10 dernières de manière exclusive. Et pourtant, c'est bien loin d'être suffisant pour en arriver à bout. En 1925, Gaudi quitte sa maison du Parguel pour être littéralement à pied d'œuvre et s'installe dans la Sagrada Familia. Il dort dans un lit directement installé dans son atelier. Sa jeunesse de dandy au goût raffiné n'est plus qu'un lointain souvenir. L'architecte se coupe du monde, jeûne pendant de longues périodes ou se contente de repas frugaux composés d'amandes et de raisins secs. Il néglige son apparence, porte un vieux manteau râpé, une longue barbe blanche et se rapproche au plus près de la religion. Le 7 juin 1926, comme chaque jour, Gaudi quitte le chantier de la cathédrale vers 18h. Il porte bien ses 74 ans et parcourt à pied les 3 kilomètres qui le séparent de l'église Saint-Philippe Neri où il se rend pour prier. Perdu dans ses pensées, il ne voit pas arriver un tramway qui le percute de plein fouet. Gaudi gît, inconscient, sur le sol. Personne ne vient en aide à celui qu'on prend pour un mendiant. Un garde civil le met finalement dans un taxi en direction d'un dispensaire d'où il est amené à l'hôpital de la Sainte-Croix. Là-bas, on l'installe dans la salle commune réservée aux pauvres. Le médecin de garde qui lui diagnostique plusieurs côtes cassées, une contusion sur la jambe et une grave hémorragie cérébrale le reconnaît. 3 jours plus tard, celui que les Barcelonais surnomment l'architecte de Dieu s'éteint en adressant ses derniers mots à son directeur spirituel. Il est enterré dans la crypte de la Sagrada Familia. Après sa mort, son disciple, Sugranyes, prend le relais de la construction. Mais voilà que lors de la guerre civile espagnole, un incendie se déclenche dans la crypte et détruit une bonne partie des plans et maquettes laissés par Gaudi. À quoi devait ressembler la Sagrada Familia? Nous ne le saurons jamais. Surtout que les pierres de construction de forme irrégulière rendent difficile l'interprétation des conceptions originales. Le bâtiment étant construit grâce à l'aumône et aux tickets des visiteurs, l'avancée des travaux a traîné au XXe siècle. Il faut ajouter à cela quelques polémiques. Mais avec un peu de chance, nous devrions voir l'édifice achevé en 2026, date qui coïncide avec le centenaire de la mort du génial Antoni Gaudi. De toute façon, comme il aimait le répéter en faisant référence à Dieu, son client n'est pas très pressé.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Antoni Gaudi, nous sommes avec Élise Dubreuil. Bonjour Élise.
Bonjour.
Bonjour Élise Dubreuil, vous êtes conservatrice au musée d'Orsay, vous êtes l'une des commissaires de l'exposition consacrée à Gaudi qui va se tenir à l'automne à Barcelone et au printemps 2022 au musée d'Orsay à Paris. C'est une première à Paris. Vous savez exactement ce que vous allez montrer ou là aussi c'est une œuvre inachevée?
Alors oui, bah une exposition, c'est une œuvre inachevée jusqu'à l'entrée du premier visiteur d'un certain point de vue. Oui, c'est une première à Paris dans l'acception d'une grande exposition rétrospective consacrée à Antoni Gaudi. Même si alors des œuvres d'Antoni Gaudi ont été montrées à Paris en 1910, du vivant même de l'artiste. Et également, de manière un peu plus proche de nous, dans les années 70, dans d'autres musées parisiens, mais la grande rétrospective Gaudi n'a pas encore eu lieu à Paris, donc nous y attelons avec ma collègue Isabelle Morin-Loutrel, également conservatrice du patrimoine, et notre commissaire général Juan José La Huerta.
Donc j'imagine que ça sera plein de couleurs, de fantaisie, comme Gaudi l'était.
Eh ben, on va essayer d'être au niveau de la fantaisie, au niveau de l'œuvre. Après, le projet de l'exposition est justement de donner à voir et de servir l'œuvre. Donc, on réfrène notre fantaisie naturelle pour laisser la sienne s'exprimer pleinement.
Heureusement, pour l'histoire de l'art, je ne suis pas conservatoire de musée, mais ça paraît très compliqué. Une expo Gaudi, il était tout sauf académique. On a du mal à le cerner. Comment on conçoit cette expo? Il y a beaucoup de mystères autour de lui.
Alors, effectivement, c'est un personnage. Oui, alors, quand on s'attache au personnage, c'est vraiment parce qu'il y a un personnage, il y a une construction. Vous avez parlé de mythe. Il y a un personnage très paradoxal qui est alors entre le génie et le fou. Effectivement, bon, certainement, tous les génies sont-ils un petit peu fous. On reste assez classique, mais dans le cas de Gaudi, il y a en plus c'est quelqu'un qui parlait peu de lui, qui a un peu écrit, mais pas énormément. Donc, on a peu de matériel très concret à se mettre sous la dent. On en a. On a surtout des témoignages. On sait que les témoignages, bon, parfois, s'arrangent un petit peu avec la vérité. Donc, on essaye de mesurer cet écart-là parce qu'il y a eu, effectivement, notamment par rapport à toute la dernière partie de sa vie où il est dans cette démarche personnelle manifestement relativement extrême, pas mal de constructions. Donc, on essaye de cerner, voilà, entre le dandy et l'ermite, on essaye de retrouver notre Antoni Gaudi. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est, comme je vous le disais, de montrer l'œuvre, le montrer à Paris, et puis quelque part de garder le mystère tout en distribuant des clés de lecture qui nous paraissent pertinentes pour aider le visiteur à se repérer dans cette œuvre très foisonnante, très, très débordante d'un certain point de vue.
Alors Élise, concernant la méthode Gaudi, on imagine qu'elle était peu orthodoxe. Est-ce qu'il en avait une d'ailleurs de méthode? Je crois qu'il faisait assez peu de plans par exemple.
Oui, absolument. Ce qu'on sait à minima, c'est qu'il ne travaillait pas de manière classique, comme on avait certainement essayé de lui enseigner à l'école d'architecture de Barcelone. C'était probablement un homme qui se sentait très libre. Concrètement, ce qu'on va essayer d'ailleurs de montrer dans l'exposition, il a cette manière atypique de travailler. Il travaille beaucoup en trois dimensions, beaucoup plus qu'en plan, comme vous le disiez. Il essaye lui-même, manifestement, il expérimente, il bricole, pour le dire simplement. Il a cette culture familiale du matériau, du travail direct du matériau. Et après, c'est aussi quelqu'un qui ne travaille pas seul. C'est peut-être important de le dire par rapport à cette figure du génie. C'est pas un génie seul. Il y a énormément de collaborateurs.
Il y a des gens qui calculent quand on est fort, c'est tout ça, pour pas que ça s'effondre.
Oui, et puis il y a des praticiens surtout autour de lui qui arrivent à comprendre ce que ça... À mon avis, ça n'était pas évident ce qu'il veut faire et qui vont lui donner les solutions techniques et très pratiques et l'aider pour construire ça. Mais il est capable aussi d'être très moderne dans son approche. Il s'empare, par exemple, de la photographie. Particulièrement, on sait qu'il y avait une sorte de studio de photographie au sein de son atelier de la Sagrada Familia avec des dispositifs de miroir qui lui permettaient de photographier une même scène sous les différents angles et ensuite de retravailler à partir de la photo. Il a beaucoup travaillé à partir de la photo. Donc ce sont des dispositifs comme ça qui sont peu courants chez les architectes de cette génération et que lui mettait en place dans une optique toujours de personnaliser sa manière de faire.
Mais il y a une sorte de contradiction puisque vous dites qu'il ne travaillait pas seul. Or, on a l'idée que la Sagrada Familia a eu du mal à être achevée et elle ne l'est toujours pas pour une raison simple, c'est qu'en fait, on n'a plus les maquettes, on n'a plus les plans et on n'est pas dans sa tête puisqu'il est mort à 74 ans. Mais s'il avait des collaborateurs, il a pu transmettre en tout cas à la fois ses désirs, ses envies ou des copies de plans ou...
Alors, il a transmis une partie des choses puisque les premiers à avoir poursuivi l'œuvre de la Sagrada Familia dans les années 30 et surtout dans les années 40 étaient en général issus du vivier des collaborateurs initiaux. Après, le temps passant et les générations passant, il y a eu aussi... c'est un héritage très complexe et je pense que personne ne pouvait se dire suffisamment proche de Gaudi pour savoir exactement ce qu'il avait dans la tête. Le mystère a été peut-être même orchestré, on peut l'imaginer par le maître.
Lui, donc, il pensait qu'il achèverait son œuvre ou pas?
Non. Il avait très tôt la conscience qu'il ne verrait pas la Sagrada Familia terminée. D'une part, pour une raison tout à fait pratique de financement. Et puis également, sans doute que l'âge avançant, il a compris un peu la démesure de son propre projet. Et là, mais ça explique peut-être aussi cette manière de se positionner, cette posture un peu à part du monde. Il s'est vu comme un génial maître d'œuvre du Moyen-Âge, construisant, alors la Sagrada n'est pas une cathédrale, mais sur le schéma des cathédrales gothiques qui se construisaient sur plusieurs générations. Ah bah, il s'est projeté dans ce modèle.
Il y a un problème technique qui se pose, c'est-à-dire quand vous voulez...
C'est
dans
merde,
une, l'architecte non, qui non, mais dans une ville, écoutons. Quand vous voulez construire une église comme la Sagrada Familia, vous déposez des plans, vous demandez des autorisations, il vous faut un permis de construire, donc il existe des plans définitifs de ce que devait être la Sagrada Familia avec ses 18
à
tours.
À l'époque, à la fin du 19e siècle, quand le projet naît, le degré de formalisation des permis de construire n'est pas celui que nous avons de nos jours.
D'accord.
Donc, Gaudi n'est pas le premier à avoir travaillé au chantier de la Sagrada Familia, on l'oublie souvent, la commande initiale a été passée à un architecte qui s'appelait Paola del Villar, et lui a déposé des plans, mais d'une cathédrale néo-gothique hyper classique, comme il en existe beaucoup de par l'Europe. Gaudi a complètement transformé le projet. Il a fait valider un projet en 1885, mais un projet suffisamment flou d'un certain point de vue qui lui a permis ensuite de laisser libre cours à sa fantaisie.
Un mot sur ce qui l'anime. Est-ce que c'est la volonté comme ça de créer une œuvre absolument incroyable architecturalement parlant, ou est-ce que c'est la foi aussi? Pourquoi la Sagrada Familia? Pourquoi une église?
Je pense que pour Gaudi, les deux sont les deux facettes d'une même chose. C'est-à-dire que son architecture est un acte de foi. C'est un homme profondément religieux et sa mission d'architecte, pour lui, est une mission divine, et avec aussi évidemment, on peut le juger, le péché d'orgueil qui n'est jamais très loin. C'est-à-dire qu'un architecte, c'est un créateur à l'image de Dieu, d'un Dieu lui-même créateur. Et certainement, Gaudi était dans cette dimension-là, d'autant plus qu'il avait ce rapport à la nature. Il admirait la nature en tant que création, géniale, mais quelque part, dans son travail, avec toute cette mise en œuvre d'éléments naturels aussi, qu'on retrouve aussi bien dans les formes, dans les couleurs, dans les matériaux, dans son architecture, il se pose lui-même en créateur génial. Et bon, c'est le petit maître qu'il sépare de la colline de Montjuïc, qu'il sépare du Très-Haut, quoi.
Mais il y a un côté moine bâtisseur aussi, c'est-à-dire qu'il se dévoue entièrement à son œuvre, il a beaucoup de fantaisie dans son œuvre, mais il n'en a aucune dans sa vie privée, là, pour le coup.
Alors, dans ce qu'on sait de sa vie privée, après, les sources sont quand même extrêmement rares, mais manifestement, oui, il a une réclusion dans son travail et dans son approche d'architecte. Il accompagne les derniers jours de son vieux père, il s'occupe de sa nièce malade. Effectivement, rien de tout ça ne respire la fantaisie, mais c'est l'un des paradoxes de cet homme que d'avoir cette vie apparemment très très rangée, pour ne pas dire triste. Et puis cette œuvre incroyable, je pense que toute sa liberté et sa fantaisie est passée dans son œuvre d'architecte.
Bah écoutez, merci beaucoup Élise Dubreuil d'avoir ressuscité la magie de Gaudi. On attend avec impatience votre rétrospective qui passera par Barcelone à l'automne prochain avant de s'installer en avril 2022 au musée d'Orsay à Paris. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci à vous.
Beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui pourraient lui valoir des procès. Mais elle a compris qu'en parlant que des morts, c'était moins risqué. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous entraînez dans l'intimité de celui dont on commémorera dans quelques jours les 150 ans de la naissance, le grand Marcel Proust.
Bah oui, alors Proust...
Ne soyez pas triste, hein.
Bah non, c'est pas triste, vous allez voir, c'est très gai. Mais enfin, écoutez, ce qui est triste, c'est qu'il est quand même mort trop jeune, hein. Il est mort beaucoup à 51 ans. Ouais. Alors dans la foulée de votre thématique, son œuvre est-elle ou non inachevée? Bien sûr, il aurait pu écrire de longues années. On a retrouvé des manuscrits. Bah, comme ça a été le cas pour Camus, on retrouve un manuscrit dans une vieille malle et on le publie des années après, c'est beau. Mais en même temps, dans l'œuvre de Proust, il y a une forme d'accomplissement. Dans ses derniers instants, il a vu venir sa mort. Et pour écrire les toutes dernières lignes de son œuvre, c'est la mort de Bergotte dans le cinquième tome de À la recherche du temps perdu, intitulé La prisonnière. Il s'est inspiré de sa propre agonie. Et cette fin, c'est presque comme s'il l'avait désirée. Parce qu'en octobre 22, il attrape une bronchite en revenant d'une soirée. Son médecin lui dit « Allez hop, au lit, nourrissez-vous bien ». Mais Proust fait exactement le contraire. Il travaille comme une brute, il veut absolument achever son cinquième tome et il se met à la diète. C'est exactement ce qu'il ne faut pas. Et du coup, sa bronchite dégénère en pneumonie. Son frère veut le soigner de force. Vous vous souvenez que son frère est médecin. Je vous ai raconté, c'est un champion, le pionnier de l'opération de la prostate. Ça vous avait ému, je m'en souviens. Donc, il fait promettre à la gouvernante Céleste de l'obliger à manger. Mais de son côté, Proust interdit à Céleste de laisser rentrer quiconque dans la chambre empêchée qu'on le soigne. Et de même s'opposer à ce que quiconque entre, même si son état empire. Et bientôt, il n'aura même plus la force d'écrire lui-même. Il va dicter à Céleste les dernières lignes de son œuvre, c'est-à-dire l'agonie de Bergotte, le romancier, dans son dernier ouvrage. Lorsque Céleste appelle finalement les médecins, il est trop tard et Proust meurt à 5h30 le 18 novembre 1922. Dans la mort de Bergotte, il avait écrit « Mort à jamais ». Qui peut le dire? Rappelons juste deux anecdotes quand même plus souriantes à propos de Proust. Alors d'abord, le fait que dans la recherche du temps perdu, dans la première mouture, il ne s'agit pas d'une madeleine, la fameuse madeleine de Proust, mais d'une tranche de pain grillé. Ça laisse quand même songeur, parce que vous vous rendez compte, toutes les élèves de France et de Navarre qui auraient dû parler ou disserter sur la tranche de pain grillé proustienne, ça, évidemment, ça faisait tout de suite moins chic. On sait aussi, bien sûr, que le manuscrit du côté de chez Swann fut refusé chez Gallimard sur les conseils d'André Gide, qui s'en excusa par la suite, et que c'est quand même extraordinaire de penser que ce premier livre de Proust fut édité à compte d'auteur chez Grasset. C'est incroyable. C'est-à-dire comment parfois l'opinion peut se tromper du tout au tout sur un génie. Eh bien, figurez-vous qu'en l'an 2000, les premières pages du côté de chez Swann, annotées de la main de Proust, ont été vendues aux enchères près de 664 000 euros chez Christie's. Quand on sait qu'il s'était édité à compte d'auteur, c'est un peu comme les tableaux de Van Gogh, bien sûr. Alors, à côté de l'œuvre littéraire majeure de Proust, on associe souvent son nom à un questionnaire. Vous savez, le questionnaire de Proust, dont il n'était pas l'auteur du tout, mais le questionnaire en question est passé à la postérité, notamment dans l'émission de Bernard Pivot. C'était un jeu inventé en Angleterre dans les années 1860, un jeu qui s'appelait Confession. C'est l'une des amies de Proust, Antoinette Faure, qui possédait ce jeu, et c'est ainsi que lui-même l'a découvert. Là aussi, Proust, quand c'est Proust, c'est tout de suite l'inflation, parce que le manuscrit original des réponses de Proust, donné en 1890, a été vendu aux enchères pour plus de 100 000 euros. Est-ce que vous vous souvenez de cette émission de Bouillon de Culture vous avez été soumis à ce questionnaire, Stéphane, vous-même, le questionnaire
de
Proust.
Souvent,
vous la posez, vous aussi.
Votre personnage préféré de fiction, votre personnage...
Et c'est toujours les mêmes questions, exactement.
Oui,
non,
toujours,
ça varie un petit peu, parfois.
Mais Proust avait répondu deux fois, parce qu'il l'a fait une première fois à 13 ans chez son ami Antoinette Faure, et il l'a fait aussi lorsqu'il avait 20 ans, et pendant qu'il faisait son service militaire. Donc c'est amusant de comparer les deux réponses, qui sont évidemment pas les mêmes quand on a 13 ans et 20 ans. Mais voilà, certaines des questions. Le principal trait de mon caractère, le besoin d'être aimé, et pour préciser, le besoin d'être caressé et gâté, bien plus que le besoin d'être admiré. La qualité que je préfère chez un homme, des charmes féminins. La qualité que je préfère chez une femme, des vertus d'homme et la franchise dans la camaraderie. Ce que j'apprécie le plus chez des amis, d'être tendre pour moi si leur personne est assez exquise pour donner un grand prix à leur tendresse. Quel serait mon plus grand malheur? Ne pas avoir connu ma mère ni ma grand-mère. Quelle est mon occupation préférée? Aimer. Et ça me semble être un bon mot de la fin pour cette dernière émission et chronique.
Bravo,
consacrée chronique dans l'année à l'alcôve, car l'alcôve c'est bien, mais l'amour c'est tout.
Une chronique qui pour la première fois finit sous la barre des 6 minutes comme un cadeau que vous nous faites comme ça.
Formidable.
C'est la première fois de l'année que vous respectez le timing. C'était pour la dernière, c'était magnifique. Ça nous laisse encore plus de temps pour le dernier quiz de l'année. Celui où tout va se jouer, car finalement c'est comme une finale, hein, le championnat est relancé, il n'y a plus de classement, tout se joue sur ce quiz.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chères auditrices, chers auditeurs, j'ai essayé dans la mesure du possible d'entretenir le suspense, mais avec un total de 127 victoires contre seulement 82 pour Stéphane, Clémentine Portier-Kaltenbach semble partie pour remporter le titre de championne de la saison du quiz, d'autant qu'il ne reste qu'une édition. Oui, clairement, pour Stéphane Bern, on a beau être début juillet, ça sent le sapin.
Le sapin, les boules.
Je vous en prie, Clémentine, restons fair play jusqu'au bout. Jouons une dernière fois, et je vous l'ai dit, tout est possible, à Bern to be alive. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Voici la première question de ce dernier quiz de la saison, notre 210e quiz. Ça fait donc 1050 questions. Je félicite avec beaucoup d'admiration l'auteur de ce quiz. Et d'ailleurs, cette phrase de félicitation est également écrite par lui. Quel talent. Commençons avec Aristophane, comique et poète qui a vécu en moins 500 avant Jésus-Christ. Il a écrit la pièce Lysistrata. On y voit des femmes hurler sur la place publique des noms d'hommes qui les ont contraints à des relations sexuelles. C'est une sorte d'ancêtre de MeToo. Vrai ou faux, Stéphane ?
Dis donc, j'ai fait toute une chronique dessus, donc d'ores et déjà, je porte réclamation sur cette question.
C'est un peu comme Camille et son chanteur breton.
Ah oui, c'est un plagiat.
Un plagiat.
Bah donc, c'est vraiment très désobligeant parce que ça veut dire que vous ne vous souvenez absolument pas de ma chronique sur Lysistrata.
C'est pas moi qui ai écrit le quiz. Hein.
Bah oui, c'est vrai.
Enfin, vous avez la mémoire d'un poisson rouge. J'ai fait une chronique entière sur Lysistrata et la grève du sexe.
Mais bien sûr, mais moi je m'en souviens. Mais visiblement,
aussi.
Stéphane, non.
Mais s'il
a répondu
aussi.
Vrai.
Allez hop, cette question est annulée.
Voilà. Mais non, il a répondu vrai. Vous avez dit vrai.
Non,
Vous n'avez pas écouté Clémentine. Mais non, elle a inspiré la grève du sexe.
Oui, la grève du sexe,
mais
c'est
oui,
ça.
Mais ils n'ont pas contraint à crier sur la place publique les noms d'hommes qui les ont contraints à des relations sexuelles.
J'ai pas écouté ça.
N'avez pas écouté, vous êtes tombé, mais dans le piège directement.
Oui.
On rappelle.
Ah oui, je suis tombé dans le piège. J'ai pas écouté la deuxième partie de la question.
Mais c'est ça votre problème, Stéphane. Vous n'êtes pas concentré jusqu'au bout.
Je suis pas concentré.
Pourtant, c'est pas fini, c'est le thème de l'émission.
C'est inachevé.
Bon. On vous renvoie vous-même à l'excellente chronique de Clémentine sur l'Isistrata. Moi-même, je suis nageur, c'est ce que vous avez dit. Stéphane, c'est pas gentil. Question numéro 2. Clémentine, vous qui avez fait une grève du sexe de 4 heures en 1981 pour protester contre l'élection de François Mitterrand.
Ah oui, c'est vrai.
On se souvient du duel à l'épée entre Gaston Defferre et René Ribière en 67. On en a parlé. Ce fut le dernier duel de l'histoire de France. Eh bien, le duel juste avant celui-ci avait pour témoin Jean-Marie Le Pen. Vrai ou faux?
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Là, il n'y a pas eu d'hésitation. Vous avez gagné.
Ouais.
C'était un duel pour un différent artistique, pour le duel avec Gaston Defferre. Il était sorti vainqueur, mais celui qui lui était opposé devait se marier le lendemain. Defferre dira « Je lui ai visé l'entrejambe pour gâcher sa nuit de noces ». Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Attention, attention. Dans la CIA, il y a une division qui s'appelle le Bureau des coordinations des politiques. Ils ont eu une idée étrange pour miner le moral des Russes pendant la guerre froide. Écoutez bien. Celle de leur parachuter des préservatifs taille XL, mais portant la mention M. Vrai ou faux? C'est vrai que ça serait démoralisant.
Ça serait...
Je connais une histoire vicieux. Comme ça. Je sais pas si c'est les Russes pendant la guerre froide, mais...
C'est la CIA qui a eu cette idée, pour parachuter sur les Russes.
J'adorerais, que je trouve ça très drôle. Écoutez, on va dire oui.
Vous avez...
Et c'est une bonne réponse. Dès qu'on sort un peu de la Grèce antique ou de l'Égypte antique, là,
pas du tout. Je suis excessivement polyvalent.
Des
excusez-moi.
Bonnes réponses. Non, là, c'est pas vous, là, c'est lui. Là, on parle de Stéphane. C'est Stéphane qui a eu la bonne réponse. Vrai.
Oui, bah, moi aussi, je connaissais.
Oui, mais ce n'était pas votre question, Clémentine. Bon. Vrai. Ils ont eu l'idée, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout. L'idée a été formulée par Frank Wisner, le directeur de l'Office Strategic Service. Elle ne s'est jamais réalisée, mais des traces de cette idée existent bien dans les archives. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Là, c'est de vous qu'on parle. Les dynasties chinoises ont eu la part belle dans notre quiz. Eh bien, sachez que la plupart d'entre elles avaient des appellations décidées par les empereurs. Par exemple, la dynastie Liao était la dynastie de la pluie d'été, la dynastie des Zhou était celle du plomb durci, et celle de Songwo était celle de la bordure protectrice. Vrai ou faux?
Oui, pourquoi pas. Je l'ignore, mais il y a à la fois beaucoup.
Il y a les Ming, les Qing, les.
Ouais, il y a beaucoup de cruauté, de dureté et de poésie dans la culture chinoise.
Oui, je vous rappelle
ces
noms. Hein. Pluie d'été, plomb durci et bordure protectrice.
Oui.
Peut-être qu'il faut réfléchir à ces noms pour voir un petit peu si c'est.
Pluie d'été sont des noms de parfums, c'est ça?
Comment vous dites pluie d'été en cantonais, Stéphane?
Les Qing, les. Les Wang.
On dirait que vous avez déjà consommé tous ces spritz qu'on va prendre dans quelques jours. J'ai l'impression que ils sont déjà dans votre sang.
Ce sont des noms de cocktails, vous croyez, Stéphane?
Non, mais des noms des dynasties.
Oui, parce qu'il y a eu énormément de dynasties. Ça fait tout à fait ça. L'empereur protecteur de son peuple.
Il y a eu, par exemple, les Qing, on l'oublie, mais les Qing. Et ça s'écrit avec un Q, hein.
Écoutez, ça n'est pas improbable, c'est assez poétique.
C'est pas improbable, mais je me permets quand même d'attirer votre attention. Moi, sans avoir la réponse, j'aurais répondu juste, tout simplement parce qu'un de ces noms
c'est très juste.
Plomb durci.
Oui. Ben oui, c'est King.
Qu'est-ce que c'est que plomb durci?
Mais arrêtez, Stéphane, avec vous ne connaissez.
Bon, donc, ce que je comprends, c'est que c'est faux, en fait. Hein. Vous voulez qu'on fasse la dernière question?
Il vous a induit en erreur, à mon avis.
Il veut que je me plante ou il veut que je gagne, c'est ça, on ne sait pas.
Suivez votre instinct, Clémentine, pour cette question.
Bah mon instinct, c'était de dire c'est vrai, donc...
Vous avez...
Il faut toujours suivre son instinct, sauf quand c'est faux. Oh, c'est faux. Égalité, pluie d'été, plomb durci, pilier de défense, bordure protectrice et gardien des murailles sont les noms, non pas des dynasties chinoises, mais de 5 expéditions punitives qu'ont subi Gaza par Israël ces 15 dernières années.
Oh,
un peu de poésie ne fait jamais de mal. Question numéro 5, c'est bien qu'on finisse par cette question de rapidité. Elle va décider le sort de votre parcours dans le quiz sur toute la saison. Une seule question, c'est maintenant. Qui est Joseph-Louis Lambeau, né en 1814 dans le Var? L'histoire n'a pas retenu son nom, c'est injuste. Je vous propose de le réhabiliter. 3 propositions. Joseph-Louis Lambeau, l'inventeur d'un parachute en verre trempé, l'inventeur de la première barque en béton armé ou l'inventeur d'une bicyclette en plâtre.
3, 2,
1.
L'inventeur de la première barque en béton armé, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui remporte le dernier quiz de l'année.
Ah, triomphe romain. Ça n'est que là, le juste résultat d'une année de labeur.
Résultat très très juste, magnifique.
Ah oui, 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 là vous pouvez me le mettre, parce que vraiment je l'ai mérité.
Comme...
Sur la barque en béton, j'emporte la couronne.
Cette phrase était belle, vous pouvez me le mettre parce que je l'ai mérité.
Et je finis par un alexandrin en plus.
Et on lui offre donc une boîte de préservatifs de
l'armée. J'ai déjà eu le manga pornographique, ça suffit.
Et il vous faut l'équipement complet, la panoplie pour un bel été. Vous voulez savoir qui était ce Joseph Louis Lambeau? Vous l'avez deviné, c'était l'inventeur de la première barque en béton armée.
Si l'histoire n'a pas retenu son nom, c'est qu'il y avait des raisons.
Mais nous le réhabilitons. En 48, il fait une barque avec cette nouvelle matière, le béton armé, qui, selon lui, allait remplacer le bois.
Ben oui, c'est formidable, ça a coulé. Il a coulé avec,
et dans,
au moins.
Dans les années 70, aux États-Unis, figurez-vous, il y a eu des compétitions de canoë en béton. Et depuis l'an 2000, il y a aussi au Canada, en Allemagne, au Japon, en Afrique, et même en France. Je ne savais pas que ça existait. Et finalement, c'était une bonne chose, que je ne le sache pas. Victoire de Clémentine.
Bravo, bravo. Clémentine.
Merci beaucoup.
Bravo.
Rendons à César...
ce qui est à Kaltenbach.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur de la dernière d'Historiquement vôtre avant les vacances. Stéphane Bern est déjà en string paréo, prêt à filer au Bourget pour sauter dans son Falcon direction Paros. Mais bien sûr, avec un objectif pour l'été.
Forniquer.
Se ressourcer, Stéphane. Essayez de vous en tenir aux éléments de langage qu'on a définis ensemble, mon Dieu. D'autant que, comme disait Thierry Pastor... C'est pas fini, c'est vrai, et c'est même notre thème du jour.
Bon, Mathieu, vous avez dit beaucoup de bêtises là, mais le nombre de bêtises dans une phrase m'impressionne. Oui, c'est pas fini, on réunit aujourd'hui des personnages qui ont laissé une œuvre inachevée. Après Gaudi, je vous raconte la vie d'un géant du pop art, qui lui aussi n'est pas allé au bout de son travail. Exactement comme notre troisième personnage du jour.
Il nous a fait rêver. Il nous a fait danser, mais il nous a aussi planté. En tout cas, si vous faites partie comme moi de ceux qui avaient pris des places pour sa grande tournée en 2015, une tournée qu'il a interrompue et jamais reprise, je commence à me demander si on se serait pas fait un peu entuber. Je vous raconte le parcours de Stromae, un artiste dont la fragilité est aussi la force, écrirait Télé 2 semaines. Avec nous également, pour la dernière fois de la saison, un dernier tour de piste pour nos as de la chronique. David Castello-Lopez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la saison prochaine?
Plus d'argent.
Ça, vous verrez avec Stéphane, moi j'en ai pas. David, l'origine aujourd'hui d'un...
Oui, de quelque chose, de truc qui nous emmerdait énormément quand on était enfant.
Ah ouais?
Ouais, j'étais bizarre. Hein. Ah oui, c'est très étrange.
Moi aussi j'adore ça parce que en fait c'est ludique et puis
on apprend.
On apprend en s'amusant.
Ouais, moi je préfère faire des pâtés de sable. Voilà, ça c'est
vrai. Ouais, mais...
Les cahiers de vacances, d'où ça vient, depuis quand, nous le saurons tout à l'heure. Ainsi que l'origine de la ratatouille. Olivier Pouls.
Le plat provençal estival excellence. Tout le monde aime, je pense, la ratatouille quand même, évidemment.
Oui. Mais c'est un autre nom aussi au sud.
Il y a un nom occitan que je vous donnerai tout à l'heure, qui est à l'origine de ça. Mais surtout, l'histoire de la ratatouille est assez passionnante, en fait.
Ah, c'est vrai? Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer.
Bah oui. Non, mais c'est vrai, c'est assez passionnant.
On a hâte. Mais il y aura aussi le mot de la fin, Stéphane, chaque jour, l'histoire d'une expression.
Trois mots de la fin, puisque c'est la fin.
Ah oui.
Je vais vous dire au revoir tout à l'heure. Bon, je ne vous dis pas adieu, mais je vous dis au revoir.
Au revoir, je compte sur vous,
Stéphane. Dans toutes les langues.
Très bien. Et tout de suite, partons à la rencontre d'un prêtre. Et tout de suite, partons à la rencontre d'un peintre qui a laissé une œuvre inachevée lui aussi. Heureusement, la partie achevée est en sécurité chez Stéphane Bern. Stéphane nous raconte Keith Haring.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il fait froid à Paris cet après-midi du mardi 28 avril 1987. Le vent secoue la nacelle dans laquelle est installé un jeune Américain, lunettes sur le nez, pinceau à la main. Au beau milieu de l'hôpital Necker, il peint sur une tour de 27 mètres de haut et 13 de large. C'est la plus grande œuvre en taille jamais réalisée par l'artiste. Et c'est bénévolement, en 3 jours, qu'il achève ce dessin d'enfant à taille de géant. Cette farandole colorée de personnages qui semble flotter gaiement. Ce généreux donateur qui met son art au service de toutes les causes, c'est Keith Haring, artiste prolifique de New York des années 80, qui peint comme il respire. Keith Haring naît en Pennsylvanie en mai 1958. Dans la petite ville conservatrice où il grandit, le quotidien est assez monotone. À l'école, Keith ne se sent pas à sa place. À la maison, il est un garçon efféminé qui grandit au milieu de 3 sœurs.
Il porte des lunettes dès l'âge de 7 ans. Résultat, il est toujours le dernier sélectionné dans les équipes de sport. De toute façon, il n'a pas besoin de ses muscles pour faire vivre sa passion, mais de ses doigts, de son imagination et d'un crayon. Près d'une frénésie de création, Keith Haring dessine sur tout ce qu'il trouve. Au dos de cartes postales, sur des listes de courses et bientôt sur les murs où il tague des slogans contre le président Nixon après avoir découvert les horreurs de la guerre du Vietnam. Puis les murs de New York où il se rend. New York, une ville où tout se mélange, la drogue qu'il consomme, la criminalité, la pauvreté, la discrimination, mais où la création artistique est débridée. Dès son arrivée, il s'inscrit à l'école des arts visuels où il s'essaye au collage, à la peinture, à la vidéo. Mais lui, son truc, c'est le dessin. Keith vit en colocation dans un tout petit appartement. Sa chambre fait la taille d'un placard. Si l'espace est limité, son imagination ne l'est pas. D'un geste de la main, il fait fuir les cafards et peint à même le plancher. Son crayon s'anime au rythme de la musique et il fait naître des lignes noires, à la fois géométriques et psychédéliques. Sur le tourne-disque, la chanson « Rock Lobster » des B-52 passe en boucle. Dans East Village, personne à la télé. Alors, pour se divertir, on sort tous les soirs. Keith est un habitué du Club 57, une salle des fêtes dans le sous-sol d'une église polonaise. C'est dans ce club qu'il va créer son pictogramme le plus célèbre, un bébé à quatre pattes. La raison pour laquelle le bébé est devenu mon logo, ma signature, est que c'est l'expérience la plus positive, la plus pure dans la vie humaine. Les enfants personnifient la vie dans sa forme la plus joyeuse, expliquera-t-il. Keith Haring est profondément ennuyé par le monde de l'art qu'il juge trop élitiste. Pour moi, l'art devrait s'adresser à un maximum de gens et non à une élite fortunée censée le comprendre. Comment rendre son art le plus accessible possible ? Fasciné par les graffitis, il cherche son terrain de jeu. Dans la fourmilière du réseau métropolitain new-yorkais, les emplacements publicitaires laissés vides sont recouverts de noir et n'attendent plus que la craie blanche de l'artiste. Son art est figuratif et ses images aussi parlantes que les mots. Des anges, des danseurs, des dauphins, des chiens, des serpents, des soucoupes volantes, des pyramides. En 1982, Keith expose pour la première fois dans la galerie du marchand d'art Tony Chafrasi. Son talent séduit. Cette même année, ses personnages s'illuminent et s'animent dans le quartier des théâtres et des lumières de Times Square. À 25 ans, Keith Haring est la coqueluche de tout New York. Mais pas que. Il s'affiche aussi dans les magazines du monde entier. Son style, jean basket, séduit et fait de lui la vitrine du rêve américain. Un soir, il se rend au Paradise Garage, discothèque du downtown Manhattan où un public principalement composé de marginaux, homosexuels, noirs, latinos, queer, se retrouve pour danser jusqu'au petit matin. « Je n'ai plus jamais été le même depuis », reconnaît-il. « La boîte ne propose pas d'alcool, alors... » Pour que la fête soit plus folle, on se tourne vers toutes sortes de drogues. Mescaline, acide, champignons hallucinogènes. Un côté psychédélique qui, pour un proche de Keith, se retrouve dans les vibrations qui entourent ses dessins et les couleurs fluo qu'il utilise. Keith est reconnu par ses pairs et commence à fréquenter Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat. Il voyage aux quatre coins du monde. Du fait de sa notoriété et de ses soirées à répétition, les sollicitations sont nombreuses. Il est de moins en moins fidèle à son compagnon Juan. En juin 1983, un mystérieux virus, bientôt nommé Sida, fait son apparition en Californie. À mesure que l'épidémie gagne du terrain, l'œuvre de Keith Haring se densifie. Pour échapper au traumatisme de voir ses amis homo succomber à ce nouveau fléau, il se focalise sur la création et accepte tous les projets. Il peint même les corps, comme celui de la chanteuse Grace Jones pour un concert, dessine des montres pour Swatch ou encore le logo d'un médicament allemand. Mais Keith est avant tout un artiste engagé dans toutes les causes humanitaires. Quand une autre épidémie sévit à New York, celle du crack qui fait son apparition en 1986, il réalise une fresque en protestation. The crack is rack. En 1988, Keith découvre une tache violette sur sa jambe. C'est un sarcome de Kaposi, un symptôme connu du sida. S'il sait qu'il va mourir, pour lui, on vit tant qu'on est vivant. Donc il continue. Contrairement à beaucoup de célébrités qui cachent la vérité au public, Keith Haring s'exprime dans The Rolling Stones et s'engage ouvertement dans la lutte contre le sida. Il crée un rythme effréné au son de la musique classique désormais. Son art est un exutoire de la souffrance devenue son lot quotidien. Sa peinture s'assombrit, ses toiles se teintent de l'horreur de la maladie. Il réalise même une fausse œuvre inachevée en 1989, Unfinished Painting, qui symbolise ce qui doit venir. L'arrêt brutal de la vie. La toile n'est peinte que sur son quart gauche,
la peinture a coulé et le reste de la toile blanche reste immaculé. Quelques semaines plus tard, en janvier 1990, Case a posé les pinceaux et rangé les bombes de peinture. Il assiste à l'investiture du nouveau maire de New York, dont la cérémonie se déroule en extérieur. Résultat, il contracte une mauvaise bronchite. Après avoir réalisé plus de 10 000 œuvres au cours d'une vie qu'il a menée à 100 à l'heure, Case Haring meurt à seulement 31 ans. Mais comme il aimait le dire, l'art est plus important que la vie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Avant d'accueillir notre invité, à l'occasion du dernier récit de la saison, je voulais en profiter pour citer les plumes qui ont travaillé avec nous à l'écriture des 420 récits de personnages historiques. Le pool d'auteurs d'Historiquement Vôtre coordonné par Benjamin Delsol. Alors, je vais tous vous les citer parce que mes récits leur doivent tout.
Il faut le dire.
Clio Bell, Charlotte Cholin, Victor De Quiver, Pierre-Vincent Le Tourneau, Tony Liégois, Ivan Jacob, Jean-Christophe Piau, Armel Tiberge et Mazarine Vertanessian. Un grand bravo à toutes et à tous.
Et pour continuer à parler de Keith Haring, nous sommes avec le photographe Baptiste Lignel. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Bonjour Baptiste Lignel, vous êtes photographe et auteur. Vous avez notamment publié Keith Haring Studio aux éditions alternatives. Si vous avez écrit sur Keith Haring, c'est aussi parce que vous l'avez connu. Il était véritablement votre ami. Racontez cette drôle d'histoire entre Keith Haring et vous. Je crois qu'au début, il y a un gamin de 12 ans fan de Keith Haring, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça. Moi, j'étais un jeune enfant parisien et un jour mon frère aîné Ben a ramené une affiche de Keith Haring et moi j'étais tout de suite fasciné par ce trait, par ce style que je trouvais comme quelque chose que j'avais jamais vu et j'étais très frustré en fait. On est en 1986 et j'arrivais pas à trouver quoi que ce soit de livres, de cartes postales, de documentation sur ce qu'il faisait, donc j'étais assez frustré et c'est d'une certaine manière, ça qui a mené à la rencontre que j'ai eu la chance de faire avec lui, parce que mon père, qui était collectionneur d'art, était au courant que Keith allait faire une exposition en Belgique. Et c'est de cette manière-là que j'ai pu le rencontrer.
Et apparemment, très vite, vous avez pas froid aux yeux, vous lui avez prodigué des conseils. Quels conseils vous lui avez donné ?
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été à ce vernissage de l'exposition qu'il avait fait au casino de Knokke-le-Zoute. Et moi, je visite l'exposition avec tout le monde l'après-midi. Et puis, j'étais déjà aspirant photographe, si vous voulez. Mais j'étais tellement débutant qu'il y avait plus de piles dans mon appareil photo. Donc, un adulte gentil m'a amené au magasin du coin pour acheter des piles. Et je reviens donc un peu plus tard. Tout le monde est passé au bar. Il n'y a plus personne dans l'exposition pour faire les photos des œuvres que je voulais. Et donc j'ouvre la porte qui était entrouverte à ce moment-là et je vois au fond de la galerie Keith avec son galeriste Tony Chafrasi dont vous parliez tout à l'heure. Et donc je commence à faire 2-3 photos. Puis finalement je me dis bon allez, prends ton courage à deux mains, vas-y, va lui parler. T'es venu là pour ça, donc j'y vais. Et on commence cette conversation. Et comme vous le rappeliez, effectivement, au bout d'un certain temps, je lui donne des conseils. Alors c'était des conseils aussi bien sur sa peinture elle-même. On était au cœur d'une exposition, donc il y avait des choses qui, moi, me plaisaient. Et je lui disais, ça c'est cool, tu devrais faire ça. Mais par contre, il y avait un style que moi je découvrais, qui était un style toujours à l'encre de Chine, mais c'était plus son trait de la même épaisseur tout le temps. C'était quelque chose de plus délié et un peu plus compliqué. Ça, je lui disais, ça on a déjà vu, il y a déjà d'autres gens qui ont fait ça, donc laisse tomber, c'est un peu pourri. Et donc évidemment, il me regardait comme une sorte d'ovni. Et puis je lui donnais aussi des conseils sur ce qu'il devait faire dans son magasin. Parce qu'il avait à cette époque déjà ouvert le Pop Shop à New York. Une des conversations qu'on avait eues, qui était de faire des baskets, vu que lui, il portait que des baskets. Mmh. Et malheureusement, de son vivant, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des projets en cours, mais qui n'ont pas abouti. Mais bon, depuis, comme vous le savez, il y a eu plein de baskets qui sont sortis.
C'est sûr, je vous le confirme. Un an et demi après votre première rencontre, vous avez 14 ans, donc vous êtes à New York et vous vous retrouvez après un déjeuner avec Keith Haring dans un studio, un après-midi. Et là, vous assistez à un moment extraordinaire que vous allez immortaliser et publier plus tard dans votre livre. Racontez-nous.
Oui, tout à fait. En fait, on a fait un déjeuner en famille avec mon père, mon cousin et Keith. Et à la fin, il dit, moi, il faut que j'y aille. J'ai une expo dans quelques semaines et donc il faut que j'aille peindre. Et de manière tout à fait improvisée, je lui dis, ok, super, ça te dérange pas que je vienne avec toi. Et donc, on part tous les deux. Là, cette fois, j'avais un appareil un peu plus élaboré et dans lequel il y avait des piles et aussi des pellicules. Et on se retrouve tous les deux dans dans son studio, donc on s'est un dimanche après-midi. Et c'est marrant parce que vous parliez de la musique qu'il écoutait tout à l'heure. Et il y avait deux temps, c'est-à-dire que quand il a fait la préparation, quand il a mis les feuilles au sol avant de se mettre à peindre, c'était plutôt du rap ou l'Erita Mitsuko. Moi, j'ai envoyé les albums d'Erita Mitsuko parce qu'il aimait bien ça. Mais au moment où il se met à peindre, effectivement, comme vous l'avez rappelé, c'était du classique. Donc ça, c'était quelque chose que moi, je découvrais, que je trouvais très surprenant vis-à-vis du personnage. C'est que pendant toute l'après-midi, en fait, c'était la musique classique.
Baptiste, je crois savoir qu'il avait une méthode bien à lui durant cette séance de travail. C'est-à-dire qu'il peint plusieurs œuvres en même temps, c'est ça?
Tout à fait. Ça, c'était quelque chose de très surprenant. Donc cette séance de travail, il a fait que de la peinture sur papier. Et ce qui, moi, m'a complètement sidéré, c'est qu'il a mis 20 feuilles au sol de deux formats différents et qu'ensuite, pendant toute l'après-midi, il travaillait sur les 20 peintures en même temps. Et donc il faisait d'abord le trait noir, qui est le trait caractéristique, qui est un peu sa signature, sur toutes les feuilles successivement. Et ensuite, il allait faire le rouge sur toutes les feuilles sur lesquelles il voulait du rouge. Et puis ensuite, il allait faire le vert sur toutes les feuilles, etc. Alors, il y en a certaines des peintures qui sont restées simplement avec un trait noir, et d'autres qui se sont progressivement enrichies et approfondies avec diverses interruptions en couleur, quoi.
Kessari est un artiste qui n'a pas hésité à marchandiser, à commercialiser son art avec son pop shop, son magasin New York. Comment c'était perçu à l'époque, Baptiste?
Alors, par moi, c'était très très bien perçu, hein. Maintenant, la question que vous posez, elle est plus compliquée que ça. C'est que effectivement, il avait une philosophie d'accessibilité de son travail, et donc le pop shop participait de ça, de dire je veux qu'on puisse avoir un t-shirt. Et dans le même temps, il était en galerie et il avait cette volonté de reconnaissance artistique. Et donc là, il y avait un point de tension qu'il a assez mal vécu, de fait d'être stigmatisé comme faisant du merchandising, comme vous le disiez. Alors que lui, il voulait en même temps avoir une reconnaissance institutionnelle et muséale, et qu'en fait, de son vivant, il n'a pas eu cette reconnaissance-là, en tout cas aux États-Unis. Et ça, c'était une de ses grosses frustrations.
Stéphane l'a rappelé dans son récit, Kiefering a laissé cette unfinished painting avant de s'éteindre l'année suivante. Comment on interprète ce geste? C'était une sorte de mise en abîme préfiguratrice. Il se savait condamné, il avait encore l'envie, la force de peindre.
Alors, ce qui est particulier dans cette toile, c'est qu'elle a un titre. Et la plupart de ces toiles n'en ont pas. Et ça faisait partie vraiment de sa démarche de dire je ne veux pas forcer les gens à voir une chose précise, je veux laisser l'interprétation ouverte. Il fait cette peinture en 89, il a son diagnostic de VIH en 88, donc il sait qu'il est atteint. À cette époque-là, personne ne survit quasiment. Et c'est une toile qui, moi, m'a toujours beaucoup ému quand je l'ai vue, parce qu'elle est souvent à la fin de l'expo, évidemment. Et c'est une manière de dire très clairement, j'ai fait un tout petit bout de tout ce que j'aurais pu faire. Et c'est vrai que moi, cette réflexion-là, j'y pense extrêmement souvent. Qu'est-ce qu'il aurait fait avec l'énergie, avec les technologies numériques? Enfin voilà, j'ai cette grande curiosité de qu'est-ce qu'aurait été la suite si le tableau n'avait pas occupé un quart, mais s'il avait été entier, en fait.
Merci beaucoup, Baptiste Signel. Alors, pour revivre cette expo en direct dans l'atelier de Kessari, je recommande la lecture de votre livre, Kessaring Studio, qui est paru aux éditions Alternatives. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans ce dernier numéro d'Historiquement vôtre de la saison, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont laissé une œuvre inachevée. Un peu comme nous, finalement, partant en vacances. Après Gaudi et Kessaring, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai de Stromae, un artiste qui a mis sa carrière entre parenthèses alors qu'il était au sommet de sa gloire.
Oui, Stéphane, un concept qui vous dépasse, vous pour qui un jour sans passer à la télévision est un jour perdu.
Mais non,
bien sûr, Stromae n'est pas le seul chanteur à laisser une œuvre inachevée. D'autres, avant lui, sont partis au sommet de leur gloire, parfois brutalement.
La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur...
Ce qui est nouveau, c'est que Stromae, lui, n'est pas mort. Oui, Stéphane, je vous le disais, même si ça vous paraît inconcevable, il a volontairement interrompu sa carrière. Je vous laisse vous remettre de ce fait.
Je ventile parce que là, j'étais tellement choqué.
Vous avez une manière très virile de ventiler. Alors, comment exprimer ce que j'ai ressenti lorsque, subitement, en 2015, Stromae a décidé d'annuler la fin de sa tournée pour laquelle j'avais acheté des places hyper chères en carré or. Ici, tout le monde s'est déjà fait quitter une fois, tristement largué, abandonné, comme un vieux slip au fond d'un tambour de lave-linge trop profond. Eh bien, c'est ce que j'ai ressenti quand Stromae a mis fin prématurément à sa carrière. J'étais ce slip. Pourquoi ? C'était que le début, on avait encore tout à vivre. Le chanteur belge, qu'on présentait comme la réincarnation de Brel, mais en salopette fluo, nous a laissé choir en plein vol. En l'espace de deux albums, il a fait tomber l'Europe, pour ne pas dire le monde, en amour pour lui. On avait des projets ensemble et pouf, plus rien. Le consentement n'était pas mutuel et ça, je ne l'oublierai pas. Néanmoins, c'est la dernière, alors je vais tâcher de me reprendre, de surmonter ce traumatisme pour vous livrer une chronique énergique et rieuse, riche en feuilles. Paul von Haver, alias Stromae, naît à Bruxelles le 12 mars 1985. Sa mère est flamande, son père est rwandais et l'abandonne peu après sa naissance avant de mourir lors du génocide quelques années plus tard. Oui, ben je fais ce que je peux pour le fun, hein. Je ne peux pas non plus aller complètement contre la biographie. Enfant rêveur, le petit Paul s'imagine rockstar et prend des cours de batterie. À l'adolescence, il se lance dans le rap. C'est là qu'il se choisit le pseudo d'abord de Ops Maestro, dans un premier temps, puis de Stromae, Maestro en verlan, à l'envers, hein, vous l'avez Stéphane. Il monte d'abord un groupe, ne vous endormez pas non plus, il monte d'abord un groupe...
Mais non, avec... je suis très attentif.
Il monte d'abord un groupe avec un ami Jedi, enfin un musicien qui se fait appeler Jedi, parce que les Jedi n'existent pas.
Ah bon ?
Très vite, il se sépare, Stromae démarre une carrière solo qui le mène immédiatement, devinez où Stéphane ?
À l'Olympia.
Pas loin de là, au Quick. Et oui, les premières années sont difficiles. Stromae vend des menus Giant pour financer son premier EP dont personne, hélas, n'entendra parler. Alors, Stromae fait un stage en radio. Et oui, il aurait pu être notre stagiaire à quelques années près. C'est à Énergie Bruxelles que Stromae met un premier pied dans le monde de la musique. Après, tout va très vite. Si vite que je ne comprends pas très bien comment on passe de stagiaire à programmateur et encore moins à artiste collaborant avec Kerry James. Mais c'est ça le propre des génies que d'arriver à se faire repérer en portant un macchiato. Mais c'est en 2009 que la vraie rencontre a lieu. Le coup de cœur, le crush, parce que c'était lui, parce que c'était nous.
Alors on danse.
Il vend près de 3 millions d'exemplaires de ce titre dans le monde. L'album remporte une victoire de la musique. Kanye West fait un remix, mais c'est en 2013 qu'on passe du coup de cœur à la passion.
On l'avait vu hier, j'étais formidable. Formidable.
À la croisée de Brel, des sonorités africaines, de l'électro et de la pop, son album Racine Carrée est un délicieux bordel auquel on adhère en masse. Le second single a évidemment une dimension autobiographique très émouvante.
Où est ton papa ? Dis-moi où est ton papa ?
Les plus fins d'entre vous l'auront décodé, il s'agit d'un morceau abordant l'abandon du père. Et quand je vous dis que tout le monde aime Stromae, vraiment tout le monde, puisque les organisateurs de la marche anti-PMA utilisent le titre à toutes les sauces, hein, dans les manifs, dans les vidéos promos, où qu'il est papa maintenant que les deux dames ont décidé d'avoir un bébé sans le monsieur sa petite graine. Stromae, bien sûr, est scandalisé. Il dit publiquement, il se dit contre l'utilisation et le détournement de la chanson et de son message. L'album, en tout cas, est un succès. Certains osent le mot chef-d'œuvre. Stromae devient une idole. Le New York Times lui dresse un portrait élogieux. Il commence une tournée américaine qui prendra fin au Madison Square Garden à New York. Lors de ce séjour new-yorkais, il prendra carrément l'apéro avec Madonna. « On a juste pris un verre », commentera-t-il humblement. « Juste pris un verre », justement. « Hier, j'ai juste couché avec Angelina Jolie ». Ça ne fonctionne pas, Stromae, cet adverbe, c'est déjà énorme. Mais voilà, toujours se méfier des gens modestes, Stéphane, ils ne tiennent pas la distance. Stromae se fatigue, il accepte de participer au célèbre festival Coachella, mais décline les enfoirés. Il s'en explique sur notre antenne, sur Europe 1. « Je ne sais pas si c'est une certaine pudeur », dit-il. « J'ai un problème à mêler mon image à une association caritative. » Évidemment, c'est pour servir ce genre d'association, mais j'ai un problème avec ça parce que j'en profite aussi et c'est là que moi je me sens mal. En dépit, vous l'aurez compris, d'un rapport ambigu à la notoriété, Stromae accepte néanmoins de faire son entrée au Musée Grévin de Paris, en présence de qui ? De qui Stéphane ? En présence évidemment de vous ! Vous aussi, vous étiez croque-love de Stromae, Stéphane. L'Académie Grévin a élu le même jour Lynn Renaud et Stromae, cérémonie présidée donc par Stéphane, qui, je cite Gala, a souhaité rendre hommage à deux parcours hors normes, avec pour point commun un début de carrière très jeune, accompagné d'un succès immédiat. Alors oui, trouver un point commun entre Stromae et Lynn Renaud, c'était balèze, bien ouais Stéphane, c'est effectivement peu ou prou la même trajectoire, la même précocité, à 173 ans d'écart. Il décide de prendre du recul. Dieu que je hais cette phrase si souvent entendue en d'autres circonstances comme « faire une pause »,« rester bons amis »,« c'est pas toi, c'est moi »,« je ne te mérite pas » ou encore « j'ai besoin de soigner mes démons et de m'aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre ». Vous l'avez beaucoup entendu cette phrase David, hein ?
C'est chiant, c'est relou.
Ah oui, pauvre vieux. Très vite, on se rend à l'évidence, Stromae est en train de nous larguer. Au début, il tourne autour du pot, évoquant un besoin de retrouver une vie normale après le succès du deuxième album. Puis il finit par nous en dire plus, d'abord que c'est un burn-out, puis... que c'est en fait le résultat d'une mauvaise réaction à un traitement préventif contre le paludisme, le Lariam, qu'il a pris lors de sa tournée en Afrique en 2015. « J'ai fait une décompensation psychique, je perds la boule complètement, c'est vraiment pas chouette », explique le chanteur qui, en 2017, soit 2 ans après, souffre encore de crises d'angoisse. Actuellement, il serait toujours en train de remonter la pente, s'investissant dans une marque de prêt-à-porter qu'il a lancée et tenant dans la presse des propos engagés qui vont à l'encontre de la chanteuse Camille, dont on parlait hier, je cite « C'est important les chaussettes ». Libération. Mais alors, quand est-ce qu'il va revenir, Stéphane ? L'espoir est permis puisqu'elle déclarait récemment au magazine belge Max ne pas avoir abandonné la musique. Je travaille et je m'amuse énormément. Mon absence me fait du bien, mais elle n'est pas définitive. Nous voilà soulagés. J'espère que les personnes ayant acheté leurs billets pour la tournée 2015 auront droit à des billets gratuits pour la prochaine tournée. Merci d'avance. Et puis, vu que j'en suis à demander des faveurs, Stéphane, et que c'est la dernière, si vous pouviez un petit peu appuyer mon dossier pour le musée Grévin, vous n'avez qu'à dire qu'on travaille désormais en binôme et que donc, sans moi, vous n'êtes rien. Que ça n'a aucun sens que votre statue de cire s'abat toute seule dans le musée, dans un certain sens, orpheline de moi. Évidemment, j'ai conscience qu'il vous faudra batailler, car, comme nous avons pu le constater hier hors antenne, il y a encore une petite différence de notoriété entre nous. Mais petite, hein. J'ai pas été invité à l'inauguration de la Samaritaine, je suis très vexé.
Moi, j'ai été invité, mais j'ai pas pu y aller.
Je vous aurai un jour, Stéphane. Je vous aurai. C'est dégueulasse.
Non.
Vous êtes invité partout, moi,
nulle
part.
Pas.
Et vous n'y allez même pas.
Même
c'est,
pas
le,
voilà.
C'est le comble c'est le du snobisme.
Oui, voilà. Exactement. Cela dit, il y a un petit problème pour votre statue de cire.
Pourquoi ?
Vous avez au moins 50 cm de plus que moi et vous allez coûter cher en cire.
C'est sûr, à mon avis, il y a d'autres problèmes qui font que je ne suis pas au grève. Mais c'est mignon de votre part. Et je cite, moi aussi, mes auteurs. Stéphane, vous avez tout à l'heure remercié ceux qui vous aident à écrire vos récits. Je remercie aujourd'hui pour tous ces récits, 210 donc, si je compte bien, Oriane Alévi et Thomas Morion qui m'ont aidé dans la préparation de ces portraits à 99% vrais.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, la dernière de la saison, c'est bientôt terminé. Olivier Poul distribue des coupes de champagne que nous allons voir avec beaucoup de modération. Mais c'est l'heure d'écouter David Castello-Lopez qui remonte une dernière fois aux origines des cahiers de vacances.
Tout à fait. Souvenez-vous, quand vous aviez 10 ans, vous êtes à la plage, vous faites des châteaux de sable. Vous êtes heureux comme jamais plus, vous ne le serez. Et là, bam ! Maman qui arrive et qui vous annonce que votre joie est caduque, qu'il faut à présent faire les cahiers de vacances pour accumuler du savoir de façon à maximiser vos chances de réussite professionnelle. Et là, la joie se transforme en douleur et vous les maudissez, ces cahiers de vacances. Les cahiers de vacances, quand on est enfant, c'est vraiment un truc de connard. Parce que je sais pas si vous avez vu récemment, des cahiers de vacances récemment, mais sur la couverture de tous les cahiers de vacances, il y a quoi ? Il y a que des photos d'enfants en train de kiffer la liberté que vous avez perdue. Sur les photos, ils font des châteaux de sable, ils surfent, ils font du beach volley avec des meufs, pendant que vous, comme un gros naze, eh ben vous faites des maths. Voilà, donc ça, ça m'énerve. Mais alors, depuis quand est-ce qu'ils existent, ces cahiers de vacances de bâtards ? Eh bien, pour le savoir, je suis pas allé très loin. Je suis allé à Montparnasse, à Paris.
Mais faut que vous passez toute votre vie là-bas. Mais même,
oui, oui.
Même depuis qu'ils ont enlevé le tapis roulant, vous
voilà,
allez quand même.
J'y vais encore. Donc à Montparnasse, à Paris, j'ai rencontré une dame. Et pour ma dernière chronique de l'année, je vous propose de l'écouter, dame elle-même, dire comment elle s'appelle.
Bonjour, je m'appelle Isabelle Magnard et je suis la petite fille de l'homme qui a inventé les cahiers de vacances.
Oui. Mais alors, qui est le grand-père d'Isabelle Magnard ? Eh bien, c'est un monsieur qui s'appelait Roger Magnard. Roger, il était né en 1905, près de Grenoble, et il est devenu représentant en papeterie dans la région. À ce moment-là, il s'est rendu compte de quelque chose qui peut paraître évident, c'est que pendant l'année scolaire, il vendait super bien ses cahiers, mais que l'été, non, parce qu'il n'y avait pas école. Et donc, ce qu'il a cherché à faire, c'est de vendre l'été aussi. Et il a eu cette idée de faire des cahiers d'exercices vaguement ludiques pour l'été. Et il l'a fait, et les premiers cahiers de vacances de l'histoire, qui sont donc une invention française, ils datent de 1933. Je les ai vus, ils étaient quand même sacrément plus austères que ceux d'aujourd'hui. Hein. Vraiment pas beaucoup d'illustrations, des exercices difficiles, mais quand même il y avait une différence. Ils avaient un énorme avantage par rapport aux cahiers de vacances d'aujourd'hui, c'est qu'ils permettaient de participer à un concours. Une fois que votre cahier de vacances, il était terminé, fallait le terminer quand même, eh bien, vous le renvoyez chez Magnard. Et Magnard, il lisait le meilleur cahier de vacances.
Et tu gagnais quoi, un
dictionnaire ? Et ils offraient un lot. Et c'était pas des lots de merde.
Ah ouais.
C'était des voyages aux Caraïbes, des télévisions couleurs, et même des voitures. des voitures pour des enfants de 12 ans, ce qui montre que c'était sans doute aux parents que s'adressait le concours. Mais maman, pourquoi je dois faire les cahiers de vacances? Bah pour gagner la bagnole, mon fils. Maman a besoin de se déplacer. Alors aujourd'hui, il n'y a plus de concours, mais les cahiers de vacances continuent à avoir quand même énormément de succès, au point qu'il y ait des cahiers de vacances sur des sujets spécialisés, à commencer par les célèbres cahiers de vacances de Stéphane Bern, hein, publiés chez Albin Michel. J'en ai amené un ici, qu'on verra peut-être si la vidéo est mise en ligne. Des cahiers de vacances donc où il est question d'histoire. Sur la couverture, il y a un dessin de Stéphane Bern en maillot de bain devant le château de Chenonceau avec personne d'autre, un peu comme si le château de Chenonceau c'était chez lui. Oui. Voilà.
Il y a marqué enfin aussi, la vérité exposée.
Exactement. Il y a marqué chez lui 2000 ans d'histoire en s'amusant. Et dedans, il y a d'une part des petits encadrés avec un hashtag Stéphane raconte. Et surtout, il y a des questions extrêmement dures qui m'ont montré, Stéphane, à quel point vous étiez calé. Il y a celle-ci, par exemple. Classer ces empereurs romains suivants par ordre chronologique de règne. Nous avons Caligula, Claude, Héliogabale, Marc Aurèle, Tibère et Trajan. Alors, quel ordre chronologique ont-ils régné?
Vous n'avez pas la page solution du jeu?
Ah, mais moi je l'ai, mais comme c'est vous qui avez fait les questions, j'imagine que vous avez les réponses. Stéphane.
Moi, j'ai toujours fait ça pour les cahiers de vacances, j'allais directement à la page solution du jeu.
Tentez quelque chose.
Tentez un ordre au hasard.
Claude, Caligula.
C'est pas facile.
J'hésite entre
Marc Aurèle, c'est un stoïque.
Marc Aurèle, oui, c'est après.
Vous avez fait la page des questions, mais pas les réponses.
D'accord. Des questions hyper dures, il y a des débrouilles.
Marc Aurèle. Vous imaginez bien que.
Vous avez Claude, Caligula, Marc Aurèle. Il vous reste à placer Héliogabale, Tibère et Trajan.
Alors, Héliogabale, je sais pas où je le place.
Ouais. On va dire que vous le mettez là.
Et Tibère et Trajan après.
Après, d'accord. Donc on va vérifier.
Vous avez, et ça devient une habitude, encore perdu.
Oui, vous avez encore perdu, Stéphane. Tibère, Caligula, Claude, Trajan, Marc Aurèle, Héliogabale en dernier. L'empereur priapique.
Ben, j'aurais eu faux aussi.
Et moi, je m'imagine au bord de la piscine, des fois en train de boire un cocktail, heureux, voyez. Et tout à coup, Stéphane Bern qui vient me voir et qui me dit « C'est fini la fête, maintenant tu vas me faire le plaisir de classer des empereurs romains par ordre chronologique. » Voilà, et hop, alors ça me rappelle un petit peu mon enfance. Voyez.
Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio sur le site europe1.fr. Et puis, nouveauté, tous les jours de l'été dans la matinale, du lundi au vendredi à 6h15 sur Europe 1. Mais comment vous allez faire?
Vous allez vous lever si
tous
tôt.
Les matins,
oui,
vous allez
je
vous
sais
lever.
Pas comment je vais faire.
Et vous avez accepté? Vous avez signé?
Le gars qui se plaint des cahiers de vacances et qui va se lever à 6h15 pendant tout l'été.
Bonjour, beach volley avec des meufs, mec, t'as compris. Olivier Pouls avant le beach volley, une petite ratatouille pour se mettre en forme.
C'est vrai que c'est en plein été qu'on peut vraiment commencer à la faire, presque jusqu'à la rentrée, que tant que les tomates sont bonnes, on peut y aller sur cette ratatouille. Alors je réponds à la question que me posait tout à l'heure Stéphane, qui est l'autre nom de la ratatouille. On l'appelle aussi la Valentine en Provence. La vraie ratatouille telle qu'on la connaît, elle vient en tout cas du mot occitan qui s'appelle ratatola, un ragoût de légumes, littéralement, parce que c'est un ragoût de légumes. Mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un plat qu'on adore aujourd'hui, qui symbolise vraiment la Provence, les vacances. Mmh. Et en fait, c'est un plat qui, pendant de nombreuses années, n'a pas été apprécié du tout, figurez-vous.
Mais il existait quand même, il était mal aimé.
Mais alors, il est arrivé tard, parce que je vous rappelle que les tomates, c'est 15e siècle, en 16e siècle même en Europe, et qu'elles ont mis longtemps avant d'arriver chez nous. Donc c'est un plat qui est arrivé probablement au 18e. La première mention exacte de ratatouille, c'est en 1831, donc c'est même 19e siècle, dans un journal des sciences militaires des armées de terre et de mer, parce qu'en fait, c'était un plat qui était servi souvent aux militaires et aux prisonniers. C'est un plat qu'on n'aimait pas, parce que c'était fait rapidement, c'était des légumes qui étaient cuits ensemble, on rajoutait parfois même un petit peu d'eau. Et figurez-vous que dans le dictionnaire provençal, en face du mot ratatouille, on trouve à cette époque-là la mention suivante, un ragoût de mauvais goût, ou un plat pour les rats.
Mais non.
C'est vous dire qu'à l'époque, personne ne veut manger de ratatouille.
Incroyable.
Et l'image positive de la ratatouille, elle n'arrive qu'au XXe siècle, et dans les années 1920, 1930 et puis 1950.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens cultivent leurs légumes, c'est une manière aussi économique de les utiliser, et puis dans les restaurants, quand c'est bien préparé, on découvre le goût de ce qu'est une vraie ratatouille, un ragoût de légumes cuits ensemble. Et c'est là qu'intervient un débat intéressant, parce que vous savez qu'il y a deux manières de faire la ratatouille, deux écoles, si on veut.
Écoles de ratatouille.
Eh oui, il y a deux écoles de ratatouille. Celle qui consiste à cuire tous les ingrédients séparément, à les pré-cuire et ensuite à les rassembler.
pour chaque ingrédient dans une casserole séparée.
Oui, parce que la cuisson de chaque légume ne va pas au même rythme.
Et oui, c'est vrai.
Ben oui, la cuisson des aubergines n'est pas la même que celle des tomates, des oignons ou des poivrons. Et sinon, il y a l'école historique qui consiste à tout cuire en même temps, longtemps, et là, ça donne quelque chose qui est un petit peu plus compoté, avec des
C'est pas mauvais non plus.
C'est pas mauvais non plus. Moi, j'aime bien la pré-cuisson de... Ça prend un peu de temps, la pré-cuisson des légumes. Donc, huile d'olive, on démarre les oignons, évidemment, un peu émincés, on les fait revenir, on les sort, on les réserve. Ensuite, les courgettes qu'on a là aussi taillées, moi, j'aime bien un peu de volume quand même, on les fait revenir dans l'huile d'olive, on les pré-cuit pendant 3-4 minutes. Pareil avec les aubergines, et puis une petite gousse d'ail, et on réunit tout ça et on rajoute les tomates à la fin et on laisse compoter tranquillement.
Merci Olivier, on peut retrouver toutes vos recettes sur le site europe1.fr comme d'habitude, et on vous retrouve à partir de lundi et durant tout l'été dans votre nouvelle émission Olivier, le marché de midi. Mais il y aura quoi dans votre panier alors?
Eh bien il y aura tous les jours un produit, un producteur, un terroir, et puis un chef qui nous accompagnera en fil rouge et qui nous donnera ses idées de recettes, ses créations originales. Bref, on va se régaler, et contrairement à David, moi je ne me lèverai pas à 6h15, mais je serai là à midi, donc grasse matinée pour moi.
Magnifique. Le marché de midi, c'est donc à partir de lundi midi, pour découvrir les produits et les terroirs de France sur Europe 1. Stéphane, vous allez avoir le mot... De la fin. Je ne trouve pas parce que j'ai déjà bu la coupe de champagne. Stéphane, vous avez le mot de la fin, l'ultime mot de la fin de l'année, et il est tout simple.
Au revoir. C'est la dernière de la saison. Il va bientôt être temps de se dire non pas adieu, mais au revoir. Car comme disait le grand Charles, un jour ou l'autre, nous nous reverrons ensemble. Bref, pourquoi on dit goodbye? Pourquoi on dit au revoir et tchuss? Voilà donc une triple explication.
Il y a aussi ciao, à la prochaine, à la revoyure, autant de façons de se saluer pour se dire au revoir.
Oui, oui, je vous l'accorde Mathieu, j'aurais pu, pour vous faire plaisir, choisir à plus dans le bus, mais non moi, voyez-vous, contrairement à vous, j'ai ma dignité. Partons sur le plus simple, au revoir. Eh bien, cela vient des marins. Au revoir, c'est se souhaiter bon vent avant un départ, tout en se souhaitant de se revoir, si possible, vivant. Au XVIIe siècle, on disait dans sa formule intégrale « Adieu jusqu'au revoir ». Puis Alexandre Dumas, en 1847, fait une différence dans « Le Vicomte de Bragelonne », le dernier roman de la trilogie des Mousquetaires, entre « Adieu » et « Au revoir ». D'Artagnan, agonisant, dit « Au revoir » à Porthos, qui est déjà mort, sous-entendu qu'il va le revoir, alors qu'il dit « Adieu » à Aramis, car ce dernier est encore en vie. En vous racontant cela, je me rends compte que je viens de divulgâcher le roman.
Oui, un petit peu, oui.
Oui, en même temps, bon, vous l'avez
on
lu
se dit
il y a
bien
longtemps.
Qu'il meurt à la fin. Un jour, il faut bien qu'il meure.
Alors, pourquoi maintenant « goodbye » ? Eh bien, comme dans « Adieu », on s'en remet aux bonnes grâces du Seigneur. Durant le XIVe siècle, on dit « God be with you ». Et si on segmente dans « goodbye », ben on reconnaît « God » dans « good »,« be » dans « bye »,« you » dans « bye » également. Pour ne pas faire de jaloux, en allemand, c'est « Auf Wiedersehen », mais aussi « tschüss », de façon plus familière, plus directe, comme « salut ». Mais nous aussi, on l'utilise, eh bien, ça vient de « Schussfahrt », qui désigne une grande pente dans laquelle on fait tout « schuss ». On se dit au revoir de façon directe, franche, un peu rapide, comme quand au ski, on veut descendre plus vite. Voilà. Tradition oblige, petite citation. Un optimiste est un monsieur qui croit qu'une dame a terminé sa conversation téléphonique quand elle a dit au revoir. Et c'est de l'écrivain Marcel Achard.
C'est toujours bon de terminer sur une petite note misogyne. Cette fois, c'est fini.
C'est du Marcel Achard. Mais
évidemment, ça excuse tout. Ouais. Il est l'heure, les amis, de refermer cet ultime numéro d'Historiquement Vôtre. Une saison s'achève. On a hâte de se retrouver en août prochain et non en septembre prochain, comme le souhaitait cette feignasse de Berne.
Et on revient en septembre ou pas?
On revient en août, Stéphane.
Mais ouais, mais quand
le 23, ben le 24, non?
C'est un peu tôt, hein.
Un peu tôt, mais c'est comme ça, c'est le calendrier de la radio. Et comme en une saison, j'aurais prononcé 789 fois le nom de Stéphane Bern et vous, Stéphane, 711 fois celui de Mathieu Noël, j'aimerais consacrer ces ultimes secondes de l'émission pour citer tous ceux que vous n'entendez pas et qui ont rendu cette aventure possible, tous ceux qui, avec nous, ont inventé, fabriqué Historiquement Vôtre par ordre d'importance décroissante. Non, je déconne. Allons-y, Stéphane, je sais que vous allez découvrir des noms.
Attendez, je crois pas, non. Ceux qui ont la gentillesse d'ouvrir notre micro de le fermer quand il faut pas. Les réalisateurs, j'ai nommé Philippe Amardet, Romain Causer et Guillaume Vasseau.
Celle qui choisit les meilleurs invités, même ceux qui ont un nom difficile à prononcer. Nous sommes avec Charles Zorgbib. Pardon. Nous sommes avec Charles Zorgbib. J'arrive pas à le dire.
Bonjour.
Charles Zorgbib.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, Charles Zorgbib. Charles Zorgbib, les éminences grises du livre de Charles Zorgbib.
Celle qui nous permet aussi de leur poser de brillantes questions, Lorena Martin, puis Clémentine Boulard. Elles nous ont bien aidés.
Merci aussi à Sébastien Bordenave pour ses quiz éminemment historiques et ses mots toujours fins de la fin. Et à notre rédacteur en chef qui s'est fait des nœuds au cerveau pour trouver les thèmes de notre émission, mais qui a beaucoup de talent, on peut le dire.
C'est Benjamin Delsol. On peut l'embrasser aussi, Benjamin. C'est vrai, à 99%. Stéphane, merci aussi évidemment à la direction d'Europe 1. Non, Stéphane, on était irréprochable jusqu'à... Que là, on salue évidemment Constance Benquet, Nadia Milosevic, Stéphane Bosc,
Léna Renault,
bien sûr, si vous voulez. Sinon, Stéphane, j'ai pas compris, je suis invité ou pas en Grèce? Je peux venir avec combien de potes exactement?
Bon, on en parle hors antenne.
Ok, okay. Hein, je vous dis donc, bel été à toutes et à tous. Merci les amis Clémentine, David et Olivier. On se retrouve à la rentrée, en réalité tout l'été, puisqu'on reste un peu là, hein, en quelque sorte, Stéphane.
Bien sûr, Mathieu, contrairement à nous, l'histoire ne s'arrête jamais. Oui. Historiquement, vous, je vous accompagne tous les jours à 16h. À très vite et encore merci, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.